Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré au processus de création et aux acteurs de ce processus. Artistes, animateurs, chercheurs, innovateurs, c'est en les écoutant et en prenant la mesure de leur parcours que nous comprendrons ce qui se passe au moment de la production d'une œuvre ou d'un spectacle. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tenter d'appréhender le rapport entre un certain savoir-faire, l'imagination et la confection d'objets artistiques, voire leur mise en scène. Comment, avec des techniques, des outils et des moyens précis, supposant un apprentissage spécifique et un rituel d'utilisation, aboutit-on à une œuvre originale dépassant la fabrication artisanale ? Comment passer de l'image mentale à l'œuvre signifiante en utilisant des matériaux et des machines qui supposent un geste codifié ? Pensons à notre Ulysse contemplatif des mouvements de la mer, de l'écume des vagues, du reflet miroir de l'eau, du vol des oiseaux, des côtes escarpées des îles qu'il croise lorsqu'il fait équipage avec ses hommes. Et si c'était de cette contemplation que viendrait l'élaboration de ses stratagèmes pour éliminer l'ennemi ou pour détourner la colère de Poséidon? L'artiste est-il lui aussi capable de transformer ses observations lascives, ses contemplations et ses capacités techniques en ruses pour nous dire, nous surprendre, nous éveiller à des idées ou à des sensations, bref, pour nous émerveiller? C'est cela que nous allons essayer de déceler aujourd'hui, au travers du parcours original et particulièrement riche de notre invité, Maud Gironet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Maud Gironet, vous êtes graveuse. Votre atelier se trouve à l'Hyperespace à Reims. Vous avez réalisé de nombreux projets utilisant une grande diversité de techniques de gravure et êtes à l'origine de plusieurs expositions, comme Mirage, présenté à Avignon en 2010, ou Métamorphose en 2012 pour l'ouverture du Louvre Lan. Mais avant de parler de tout ça, commençons par le commencement. Alors, on va commencer, comme avec chaque invité, Maud Gironet, si vous en êtes d'accord. On va commencer par parler un peu du milieu qui vous accompagne au tout démarrage, c'est-à-dire, est-ce que vous faites partie d'une famille d'artistes, ou alors est-ce que l'art n'avait pas de lieu dans votre milieu d'origine?
Alors, j'ai la chance d'avoir eu un grand-père fabuleux, un peintre breton, qui a longtemps travaillé dans une usine, une manufacture de papier peint. Donc, il a commencé sa carrière en élaborant des motifs destinés à être imprimés pour ornementer les murs des intérieurs. Et ensuite, lorsqu'il s'est mis au vert, il a continué sa pratique, mais de manière très figurative et principalement des natures mortes. Et lorsque j'allais le visiter, enfin, voir son petit atelier en Bretagne, j'étais toujours charmée par ses peintures d'hortensia, de roses, et je peignais avec lui dans son petit havre de paix.
Oui, il vous a appris quelques techniques à l'époque ou
Oui, parce que il avait pas que la peinture comme médium, il avait aussi un aérographe, plusieurs craies, plusieurs crayons, et c'était un laboratoire vraiment de la couleur et du pigment. Donc,
Qu'est-ce qui vous fascinait le plus à l'époque? C'était le geste ou c'était les couleurs, la profusion de matériaux?
C'était vraiment cet environnement de laboratoire dans sa petite maison avec la mezzanine qui était vraiment dédiée à ça. Rentrer là-dedans avec tous ces outils comme des jouets, des outils magiques et pouvoir les saisir pour créer des images.
Et par rapport à ça, est-ce que vous avez eu, par ailleurs, en plus de cette rencontre avec votre grand-père et son univers, une éducation à l'art? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez dire que dans votre milieu familial, on était vraiment orienté vers de différents mondes artistiques?
Non, pas spécialement. Après, j'ai une petite anecdote un peu amusante. C'est que petite, je voulais des jouets particuliers issus des dessins animés ou des BD que je lisais. Et ne pouvant toujours les acheter, parce qu'ils n'étaient pas forcément produits par les grandes fabriques, je les dessinais et je me les découpais, je me faisais mes petits théâtres ombre et lumière, donc c'est plutôt ça qui m'a obligée à affiner mon geste et travailler un peu la représentation.
D'accord. Est-ce que la rencontre avec la gravure s'est faite dans cette époque-là, enfance, adolescence, ou elle s'est faite bien plus tard?
Bien plus tard, j'ai postulé pour une école parisienne qui s'appelle l'école Estienne, mais pour faire des études d'illustration. Et on commence par une prépa et on teste, on va dire, toutes les classes disponibles, toutes les spécialités. Et il y avait la section gravure. Ça a été un immense coup de cœur, mais j'étais encore un peu jeune à l'époque et je voulais vraiment faire ma formation d'illustratrice.
D'accord.
Mais finalement, j'ai été retenue en gravure.
Mmh. Vous aviez quel projet par rapport à l'illustration ? Vous vouliez
travailler
par rapport à
du livre jeunesse.
Ah. Et donc, à la rencontre avec la gravure, c'est la rencontre avec des artistes graveurs dans l'école ou alors c'est par rapport à un atelier
Déjà, je connaissais pas la technique de la gravure. Je sais pas si tout le monde sait aussi finalement comment ça fonctionne, parce qu'on l'utilise plus tant que ça. À la base, c'est un procédé pour imprimer des images en plusieurs exemplaires. Maintenant, on n'a plus besoin de tout ça, on a les impressions numériques. Mais du coup, c'est le principe du tampon, grossièrement, avec une matrice qui va être ancrée, ses creux et ses reliefs. Et selon les techniques que l'on utilise, on va avoir des effets, des rendus et des textures qu'on ne peut pas avoir en peinture, en dessin ou avec d'autres techniques pictures. Donc il y a ce côté découverte et aussi ce côté labo magique avec ces produits chimiques, ces outils que je ne connaissais pas du tout.
Donc, qui vous a fasciné, voilà. Et vous avez rencontré sur place des professeurs qui vous ont aussi marqué.
Oui, vraiment des personnages très particuliers, des imprimeurs de Paris très qualifiés, très avec beaucoup de savoir-faire, et puis surtout une artiste plasticienne qui s'appelle Françoise Petrovitch, qui était l'une de nos profs principales, dont j'adore le travail. Elle est plus connue pour de très grandes aquarelles, mais elle a aussi un parcours très intéressant d'autodidacte. Donc cette école avait quand même des enseignements très traditionnels, avec la gravure burin, des techniques particulières, et elle avait une approche plus libre, on va dire, et plus plasticienne.
D'accord. Vous avez passé combien de temps dans cette école ?
3 ans.
3 ans. Et vous en retenez quoi, en fait, l'apprentissage d'un savoir-faire en premier lieu, ou bien vraiment la découverte de multiplicité de monde ?
On peut dire les deux.
Oui, bien sûr. Ma question était trop fermée.
Mais surtout que c'est compliqué pour moi, parce que j'étais très très jeune quand j'ai intégré cette école, et j'ai pas tout de suite réalisé ce qui m'est arrivé, l'expérience. Je l'ai réalisé plus tard. Parce qu'on était en quelque sorte un peu sponsorisés, tous les matériaux étaient gratuits, on avait des enseignements de qualité, on avait 40 heures de cours par jour aussi, donc on n'avait pas trop le temps de prendre du recul sur ce qui nous arrivait, plus les devoirs, les
projets. Ça fait comme une éponge en fait, vous avez beaucoup engrangé d'expériences.
C'est une expérience intense avec des rencontres très très fortes. Mais oui, on va dire que c'est un petit peu tout ça.
Ouais. Et au bout de ces 3 ans, il se passe quoi alors ?
Alors, la plupart, soit reprenaient leurs études. Moi, j'envisageais faire des études à Bruxelles. Mais ma prof, Françoise Petrovitch, m'a dit que c'était pas si nécessaire que ça. J'avais l'opportunité de revenir à Reims en tant qu'assistante d'une artiste graveuse locale, Marie-Christine Bourvenne. J'avais fait mon stage chez elle et elle m'accueillait pour les premières années, le temps de m'installer, savoir aussi si je voulais continuer la gravure. Et ça a été, ma prof avait vraiment raison, parce que sans ça, je suis pas sûre que j'aurais pu continuer. Pratiquer la gravure, c'est quand même un petit peu cher. Il faut un lieu, des outils, des presses. Tout ça, c'est un gros investissement. Et du coup, commencer mes jeunes années auprès de Marie-Christine Bourvenne, ça m'a permis de continuer ma pratique dans la sérénité. Et puis avec la bienveillance aussi d'un mentor.
Alors ce mentor, il joue quel rôle ? Il vous apprend aussi de nouvelles techniques ou pas forcément ? Vous travaillez en parallèle ?
À chaque fois qu'on franchit les portes d'un atelier, on découvre vraiment un autre univers. Déjà parce que c'est tenu par des humains qui ont des manières de travailler, de penser différentes, des références différentes. Marie-Christine, son atelier, c'est une cuisine. Elle a pas du tout envie de s'enfermer dans des techniques. Donc, elle prend toutes les techniques et elle les utilise à sa sauce. Ça, c'était complètement nouveau pour moi, où on apprenait chaque étape, chaque rituel de manière très, très rigoureuse. Donc, ça m'a appris un petit peu à me lâcher aussi, à pas forcément faire les choses très propre comme on nous avait enseigné. Et puis surtout, rentrer comme ça dans l'univers d'un artiste, on découvre son réseau. Les gens pensent souvent que les artistes sont tout seuls dans leur atelier, et en fait les artistes sont toujours dans des échanges, soit avec d'autres artistes, soit avec un public. Et tout ça, on l'apprend pas forcément à l'école.
D'accord. Et vous pensez qu'elle a eu une influence sur votre pratique ?
Oui.
Par rapport au savoir-faire ou par rapport aux thématiques, ou peut-être les deux, là aussi ?
Je pense, oui, parce qu'elle a un regard sur l'histoire des hommes, les traditions qui, encore maintenant, m'interpellent. Presque un côté un peu chamanique. Mon travail est plus tourné sur la nature, mais toutes ces choses-là aussi m'interpellent énormément. Et puis même cette manière de travailler aussi, donc toujours très libre et très intuitive, ce qui n'est pas forcément évident quand on a des techniques comme ça avec beaucoup de processus, encore une fois, très, très rigoureux.
Vous vous rappelez les premières productions que vous avez jugées, vous, vraiment personnelles, qui sortaient du cadre de l'apprentissage, du savoir-faire ?
J'avais entrepris d'illustrer un recueil de poèmes en prose qui s'appelait « Gaspard de la nuit ». Et du coup, sous forme un peu de roman graphique, donc mélanger les genres, BD, gravure, ce qui se fait pas trop parce que la gravure, encore une fois, maintenant, c'est un petit peu considéré comme un art noble, destiné à être accroché sur les murs. En faire une édition BD, c'était un petit peu vulgariser ça. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à me plonger dans ce travail-là, que j'ai pas fini malheureusement. Mais c'est là où j'ai commencé vraiment à me faire plaisir. Parce que quand on est dans une école avec autant d'heures de travail, on fait un peu les sujets comme des exercices. Et c'est un petit peu dommage, on a tendance à même à prendre le moule de l'école, à ne pas forcément trouver son style tout de suite.
Oui, et est-ce que justement, il faut beaucoup de savoir-faire ou beaucoup d'expérimentation pour pouvoir après aller à cette phase de production personnelle ? Ou pas forcément ?
Oui, je pense qu'il faut produire beaucoup. D'ailleurs, je peux pas dire que j'ai trouvé mon style maintenant. Je pense que je m'en rapproche plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Mais je suis toujours en train de chercher quelque chose.
Mais au niveau juste du geste technique, il y a quelque chose... Ouais, même là-dessus. Ouais.
Oui, parce que encore une fois, la gravure a une palette infinie de possibilités. Moi, maintenant, je me focalise sur ce qu'on appelle la manière noire, qui est très très longue, qui consiste à granuler la plaque en trame pendant des heures et des heures. Mais on peut aussi, encore une fois, utiliser des produits chimiques, faire des transferts photos, ce que j'ai réexpérimenté il y a peu de temps. Et on peut vraiment utiliser la plaque, la matrice, l'empreinte de multiples manières.
Donc vous continuez à explorer de nouvelles formes de techniques,
oui.
C'est ça en fait. Alors maintenant, on va analyser un petit peu plus le processus créatif de votre travail artistique, et puis on va réfléchir, alors peut-être que je vais faire des erreurs parce que je n'y connais rien, mais y a-t-il une phase préparatoire, en fait, dans vos projets ? Ce que je voudrais savoir, c'est si, en fait, avant de vous lancer dans une série, dans un projet, vous avez un temps de réflexion, un temps de maturation que vous avez laissé aux idées, ou alors est-ce que c'est en faisant que les choses se produisent ?
Non, je suis pas du tout dans la spontanéité là-dessus. Mais c'est par choix. J'aime beaucoup ritualiser le processus de la création et avant de commencer un projet important, je vais ranger mon atelier, trier un petit peu mes papiers, procrastiner certainement d'une certaine manière.
Ouais.
Trouver la bonne musique aussi. J'aime bien avoir un environnement sonore. Et tout ça, ça fait partie des ingrédients qui vont me mettre dans une bulle de création. Après, ça va dépendre du projet, mais si je décide de m'initier une nouvelle technique comme la photogravure ou l'entotype, là, je vais avoir une phase de recherche très importante avec beaucoup d'échecs. Ça, c'est le secret, c'est de rater 100 fois pour avoir 5 bons tirages. Et là, du coup, j'ai intérêt à avoir beaucoup de bonne musique pour rester positive.
Alors justement, c'était une autre de mes questions, c'est que finalement, vos projets, est-ce qu'ils naissent de l'expérimentation d'une technique de gravure, ou alors est-ce qu'ils peuvent naître aussi d'une idée, d'avoir envie d'atteindre, je sais pas, la représentation ou quelque chose. J'ai vu que dans les thématiques que vous produisez, il y a beaucoup d'éléments de nature, comme les végétaux, comme les nuages, le soleil, les astres, donc ça pourrait être aussi lié à de la contemplation, ou alors quelque chose duquel vous êtes proche, vous vous sentez proche ?
Alors mon univers aussi entre cette espèce de mimétisme de ce que je vois, la représentation de la nature, mais cherche aussi un langage. Je veux pas être juste dans la représentation figurative et je cherche soit par les procédés techniques que j'utilise, soit les mises en scène que je mets en place, les installations, un autre rapport de perception. Ça fait partie des choses que je cherche dans mon travail.
Vous vous interrogez en fait sur votre perception, votre sensibilité, c'est ça en fait ?
Notre,
la façon dont vous regardez,
enfin... Notre place dans un environnement, donc mon observation va se focaliser sur les phénomènes naturels principalement, le phénomène des soleils de minuit ou de l'apparition de certains nuages ou des choses plus simples encore qu'on peut observer au quotidien, moins grandioses, pas forcément toujours célestes, mais en tout cas des phénomènes naturels et peut-être essayer de trouver notre place là-dedans. Je trouve qu'on a beaucoup
couper.
On se coupe beaucoup du monde, on envisage toujours l'homme et la nature, et ça va être symptomatique de plein d'autres choses dans la société, nous et l'autre.
Vous avez évoqué dans une vidéo que j'ai pu voir, le fait que par exemple un de vos projets par rapport à la Lune était venu d'un rêve. Est-ce que le rêve a une place importante dans votre production artistique ou pas ? Ou c'était juste ce projet-là ?
Oui, puisque je crée aussi des images, des gravures qui sont pas forcément nées d'une observation et qui sont simplement des rêveries un petit peu fantaisistes. Il y a vraiment les deux, du coup, dans mon travail, le réaliste et le fantaisiste. Finalement, je pense que j'essaye un peu de flouter la frontière entre le réel et l'irréel aussi, toujours dans cette recherche de la perception, de casser un petit peu nos codes, nos repères.
Et ce temps de réflexion sur la thématique ou sur le choix du savoir-faire que vous allez utiliser, il dure longtemps ou pas ? C'est-à-dire avant que vous vous y mettiez, concrètement, avant que vous commenciez vos essais, est-ce que ça peut durer très longtemps, cette maturation ? Ou cette incubation ?
Ça dépend des plannings que je me fixe. Si j'ai une deadline, ça va aller beaucoup plus vite.
Ouais.
Une exposition, un rendu. Parce qu'on a vite tendance à accumuler les projets et du coup, il faut prioriser et c'est pas évident.
D'accord. Et est-ce que votre état d'esprit peut influencer la mise en place du projet ? C'est-à-dire, alors tout à l'heure on parlait d'optimisme ou de pessimisme, mais c'est vrai, est-ce que finalement on n'est pas tout le temps dans le même état d'esprit et dans sa vie ? Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'avancement du projet ou sur la mise en place du projet ?
Oui, puis ça peut même influer sur les sujets aussi. Des périodes où je traversais quelques petites épreuves ou grosses épreuves, je me rends compte que mes gravures sont un petit peu plus sombres. Pendant la pandémie, j'ai eu la chance de faire une petite résidence confinée avec d'autres artistes. J'ai cherché le bleu du ciel, j'ai cherché des éléments pour respirer, littéralement.
Ouais. Et quand vous êtes dans cette recherche, ou même quand vous avez démarré votre travail, je voudrais savoir si finalement ça vous obsède, ou alors il y a bien une distinction entre le moment où vous êtes en travail, au travail, et puis le moment en dehors, etc.
Non, ça m'obsède.
Ça vous obsède totalement ?
Tout le temps.
Ça occupe vos pensées tout le temps ?
Oui, parce que des fois des idées peuvent naître à tout moment, et c'est vrai que c'est difficile à expliquer, on peut avoir des moments de méditation où les pensées partent dans tous les sens, j'en parlais encore hier avec un collègue, et ça peut paraître un peu de la fainéantise, ou comment dire, une attitude un petit peu nonchalante, mais des fois de prendre le temps de réfléchir, de lire des livres, on va trouver des solutions à des problèmes auxquels on pensait même plus, donc...
Quand vous parlez de livres, vous pensez à c'est l'aspect technique ? C'est des livres techniques, par exemple, ou c'est des livres, ça peut être des romans, ou ça peut être complètement autre chose ?
Ça peut être un peu tout. Moi, j'ai une bibliothèque qui est constituée beaucoup de livres d'Emmaüs, des Life, des vieux magazines, des choses qui parlent de la nature beaucoup, mais puis d'auteurs qui parlent de la nature. Peut-être un peu redondant.
Quand vous les regardez, en fait, ça peut, des fois, susciter des idées, des images. Et c'est que ça peut venir de là aussi.
Oui.
Alors, on va parler maintenant de la préparation technique. Donc, vous avez commencé à dire, vous rangez vos outils.
Oui.
Et alors, au moment où vous les redérangez à nouveau pour entrer dans la phase, ça se passe comment ? Alors, vous faites le choix d'une technique. Déjà, vous avez beaucoup de techniques que vous avez utilisées, très nombreuses. Est-ce que chaque technique prend du temps à maîtriser, enfin, à être maîtrisée ou pas ?
La plupart, oui. Mais donc, pour réaliser une gravure manière noire, il faut préparer sa plaque. Donc une plaque de métal, la poncer pour éviter d'avoir une fibre qui va gêner ensuite l'image. Et ensuite, ce procédé donc très long, très mécanique, de granuler la surface avec un outil qu'on appelle un berceau. C'est comme une petite pelle dentelée. Et on va l'appliquer sur la surface de la plaque en faisant un geste. Alors comment expliquer sans image ? Un geste de balancier, et ça va imprimer des lignes de points tout le long de la plaque. Donc on le fait dans tous les sens, de manière à ce qu'on ne voit plus aucun blanc, et que tout soit uniformément dense et granuleux. Ça peut prendre vraiment plusieurs heures, comme des fois une semaine, selon la taille de la plaque. Et c'est dans ces moments-là que j'écoute beaucoup de podcasts, de la musique, mais les podcasts surtout pour pas trop m'ennuyer. Après, on fait pas tout d'une traite non plus.
Ouais. Et quand est-ce que vous savez que votre geste, il est au point ?
Alors, je fais briller la plaque, donc je regarde si les trames absorbent la lumière ou pas, et c'est très difficile quand je l'explique à mes élèves, c'est de leur montrer que selon l'inclinaison de la plaque, les rayures vont absorber cette lumière ou au contraire la refléter. Il y a un moment où vraiment la couleur devient, pour du zinc, très argentée, et c'est bon, on peut y aller.
En fait, ça, c'est les expérimentations qui vous ont donné ce regard expert, au fur et à mesure, maintenant vous savez distinguer à l'avance ce que ça va donner.
Il faut vraiment pas se tromper, parce que si on commence la gravure sur la manière noire avant que la manière noire soit prête, la trame va apparaître et ça va être disgracieux. Donc on aura perdu des heures et des heures de travail. Donc il vaut mieux presque trop maniérer sa plaque que pas assez. Puisqu'ensuite, le principe de la manière noire, ça va être de poncer cette surface granuleuse par endroits pour que l'encre accroche moins et avoir du coup des contrastes, des effets de clair-obscur. Et le rendu est très particulier. Si les gens ont l'occasion de taper manière noire sur internet ou mezzotinto en italien, ils vont découvrir des images avec des ambiances très veloutées, très très feutrées, parfois un rendu presque photographique aussi.
D'accord. Et ça, quand vous parliez tout à l'heure d'erreurs ou qui étaient nécessaires, est-ce que les erreurs sont pas artistiques aussi?
Oui, bien sûr. Ça, j'ai appris justement dans l'atelier de Marie-Christine à accepter les erreurs, ou à les transformer, les sublimer même.
Oui.
Ça fait partie du processus. On ne peut pas tout contrôler, et je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie.
Oui. Vous avez fait de la gravure sur bois, des eaux-fortes, de la photogravure, de la pyrogravure. Il y a des techniques que vous préférez par rapport à d'autres?
Du coup, la gravure sur métal.
Ouais, c'est celle-là qui vous interpelle le plus?
Oui, vraiment.
Il y a une raison à ça? Enfin, vous
bah, arrivez rendu, à le rendu. Et puis, encore une fois, la gravure, ce sont des étapes, des rituels. Donc, il y a toujours cette magie à la fin qui m'interpelle. On a une idée de ce que ça va rendre, mais on ne sait jamais vraiment jusqu'à ce que la gravure sorte de la presse et qu'on soulève le petit papier. On voit l'estampe. Et ça, c'est toujours magique.
Oui, c'est le côté magicien un peu, hop. On sort du chapeau le lapin.
Voilà.
Est-ce qu'on peut être prisonnier d'une technique?
Oui, c'est possible.
Dans le sens où on n'arrive pas à faire autre chose que ce que la technique propose, par exemple.
Je vois pas mal de graveurs, justement, avoir peur de l'apprentissage d'une nouvelle technique. Et du coup, se limiter juste en dessin point de sèche ou de la linogravure. Après, certains aussi ont apprivoisé leur technique et en ont fait leur esthétique, donc ça, je le respecte. Mais moi, personnellement, j'aime bien tester d'autres choses. Même aller sur ce qu'on appelle du monotype, c'est-à-dire de la peinture imprimée. Il n'y a pas du tout de gravure, pour le coup. Ce sont des empreintes de couleurs. C'est très instantané et ça change de la gravure où il y a ce côté plus ritualisé.
Il y a des techniques, alors je vais peut-être répéter un peu une question de tout à l'heure, mais il y a des techniques qui vous conduisent à des sujets? Ou c'est des sujets qui vous conduisent à des techniques?
Non, c'est plutôt les sujets qui vont être traduits
par des techniques. Pendant ce moment de réalisation technique, quelles sont vos pensées? Est-ce que, donc, vous avez dit tout à l'heure, vous écoutiez des podcasts. Ça veut dire que vous êtes capable de vous détacher, en fait, de ce que vous êtes en train de faire?
Surtout lorsqu'on a lorsqu'on réalise une manière noire qui est très mécanique. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Donc là, oui, on a intérêt à réfléchir un petit peu.
Il y a un moment de concentration extrême?
Il faut quand même rester concentré parce que l'outil peut déraper, ça peut rayer un peu la surface et c'est dur à rattraper. Donc c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus confortable. Je peux pas, par exemple, regarder la télé ou vraiment discuter avec des gens en même temps. Donc c'est pour ça que le podcast, on est vraiment dans une bulle et on est concentré tout en surveillant ce qu'on fait.
D'accord. Ça dure combien de temps, à peu près? Alors je sais bien que c'est variable en fonction des techniques, mais pour nous donner une idée.
J'avais réalisé une image pour le festival Orbis Pictus. C'était une gravure de 30 cm par 40. Ça m'avait pris une semaine de maniérer la plaque.
D'accord. Ah oui, c'est long.
Et surtout, je fais quand même des petites pauses parce que ce geste répétitif m'a créé des petites tendinites au poignet il y a quelques années. Donc maintenant, j'ai cette douleur qui peut se réveiller si je le fais de trop.
Ça veut dire que le muscle est très tendu, en fait, c'est ça?
On a une douleur dans l'articulation au bout d'un moment.
D'accord. Qui est due à la concentration ou pas forcément?
La crispation.
La crispation.
Et puis l'usure, en fait, répétée.
Ah oui, d'accord, l'usure. Ouais. Donc il faut mesurer son geste dans la journée pour
ça peut être très physique, la gravure. Les gens sont surpris, même lorsqu'on imprime, en fait, on tourne la roue d'une très grande presse. Et le passage sous le cylindre demande de la pression et un petit peu de force physique. Et des fois, ça, quand on a plusieurs tirages à faire d'affilée, ça peut vraiment tirer sur les muscles,
fatiguer le sport. Fatiguer le corps, oui, tout à fait. Alors, on arrive à la troisième étape, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, la création, parce qu'elle a déjà commencé avant. Mais finalement, à partir de quand vous dites que vous avez abouti? C'est-à-dire que votre idée, ça y est, grâce à la technique, elle s'est développée, non pas en geste simplement artisanal, et c'est pas du tout péjoratif, mais il y a une autre intention, il y a une autre signification.
C'est pas très... Je sais pas si je vais réussir à l'expliquer, mais je le sais. L'image est là, et tout d'un coup, j'ai une révélation. C'est comme une assiette qu'on fait tomber par terre, ça y est.
Ça paraît une évidence.
Ça y est, c'est fait.
Vous parlez de mise en scène, en fait, d'installation. Est-ce que ces installations, en fait, elles sont prévues après ou au tout début?
Comme j'ai pas vraiment une formation d'artiste plasticienne, c'est quelque chose que je suis toujours en train de découvrir. Et des fois, ça peut être sur le lieu. Parce qu'on, quand on parle de mise en scène, il y a une autre rencontre, c'est aussi celle du lieu. Mmh. Et chaque lieu est différent, la lumière, les volumes. Mmh. Donc forcément, il n'y a pas de recette.
Oui. Ça va c'est quelque chose que vous avez au départ, ça? Ces informations-là, sur le lieu? C'est quelque chose que vous prenez en compte
pas
dès
toujours.
Le départ? Pas toujours.
En ce moment, c'est un petit peu en stand-by, mais je fais des résidences européennes sur le thème du vin, par des régions qui veulent mettre en avant leur terroir. Et donc à chaque fois, c'est un peu la surprise quand on arrive dans une région de où va-t-on faire la restitution, toujours dans des endroits très atypiques.
D'accord.
Alors c'est un petit peu la loterie.
Et comment on s'adapte alors?
Comme on peut.
C'est sûr. Non mais je veux dire, des fois le lieu peut sublimer aussi.
Quand on en a la possibilité, la recette magique, ça va quand même être la lumière. Si on a des bonnes lumières, tout de suite ça sublime, ça focalise l'attention. Mais des fois, on n'a pas du tout de lumière, et alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout moi qui fais des choses un petit peu petites, sombres.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que des fois, vous avez des formats très petits.
Oui.
Donc là, c'est encore plus, enfin, encore moins évident pour vous de les mettre en valeur. Donc là, il y a une nouvelle réflexion. Il y a des gens qui vous aident dans ces installations, ou vous êtes toute seule?
Quand on a cette possibilité-là, c'est un grand luxe, parce que l'artiste a souvent peu de recul, j'ai l'impression, sur son travail. Mais bon, après, il reste toujours aussi la médiation, c'est-à-dire finalement, quand on n'a pas tout cet environnement qui est parfait, il reste l'artiste qui va parler de sa démarche, et finalement la faire exister en la partageant avec les spectateurs.
Alors, je voulais aussi vous interroger sur l'expérience de résidence que vous avez eue en Norvège, qui est assez incroyable, enfin, si vous voulez bien nous la raconter.
Bien
sûr. Parce que ça, c'est vraiment particulier, c'est qu'à la fois, c'est une expérience où vous avez participer aussi physiquement, finalement, pas uniquement en tant que...
Complètement. Du coup, c'était une très très belle opportunité. Lorsque je faisais ce travail sur les lunes et les mouvements célestes, je rêvais de pouvoir observer des soleils de minuit, donc un phénomène qui est très particulier, mais uniquement visible depuis les pôles terrestres. Et un appel à candidature est sorti sur des résidences internationales, dont une en Norvège, à Trondheim. Elle était communiquée par CAMAC, si je me souviens bien, une institution, un centre d'art basé du côté de Troyes. Alors je sais plus exactement, je suis désolée, j'ai un petit trou de mémoire.
Et on complétera en sous-texte, hein, vous inquiétez pas.
Super. Ouais. Et donc j'ai été retenue avec mon projet de soleil de minuit. Du coup, je proposais une observation des soleils de minuit pendant 2 jours, heure par heure. Et une retranscription en photogravure. Alors la photogravure, c'est un mélange de gravure, de photos et de peinture. L'idée, c'est d'insoler des photographies sur des plaques, de les révéler pour créer, creuser le motif dans la plaque. C'est très complexe.
Utiliser la lumière pour faire apparaître la lumière.
Tout à fait.
Je caricature. Hein,
mais non, mais oui. c'était l'idée. C'est pour ça que je voulais pas en faire une restitution photographique ou juste gravée, reproduite. Je voulais vraiment que la lumière soit l'outil de réalisation et sujet de l'œuvre. Donc, je suis partie en Norvège. Alors, il y a eu un petit couac quand même, parce que le centre d'art qui devait m'héberger, finalement, a eu un petit problème de place. Et il n'avait plus de place, sauf en janvier. Sauf qu'en janvier, il n'y a pas du tout de soleil de minuit. Hein, c'est plutôt
c'est
la lune de midi. Donc j'ai un petit peu tempêté et j'ai eu gain de cause. Ils m'ont envoyé dans une annexe qui se situait à 400 km de là sur une île, dans la maison d'un gardien de phare.
D'accord.
Sur le coup, ils étaient un peu désolés. Je leur dis mais non, ça va être parfait parce que mon 360 degrés pour observer le soleil sera vraiment sans parasites visuels.
Ouais.
Et effectivement, c'était parfait. C'était
c'est
incroyable.
C'est une expérience humaine un peu hors du commun parce que vous êtes isolés, c'est ça en fait. Vous êtes...
Oui, complètement, parce que les Norvégiens sont anglophones normalement, mais sur l'île, c'était une île de vieux pêcheurs de 50 ans, 60 ans, qui ne parlaient pas du tout anglais, à part la petite épicière du coin et puis un vieux pêcheur qui me prêtait son canoë. Jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, les enfants des résidents viennent sur l'île. Et là, j'ai pu discuter avec des gens de mon âge et avoir des interactions un petit peu plus soutenues.
D'accord.
Mais du coup, c'était vraiment une expérience très particulière.
De solitude, alors, par rapport à l'œuvre, oui. À l'œuvre artistique, c'est...
C'était parfait pour les 2 premières semaines où je suis partie toute seule à la découverte de l'île, prendre mes photos, voir la faune aussi, qui était très riche sur l'île. Et au bout de 2 semaines, tout en haut de mon... Parce que j'étais tout en haut, forcément, le phare est tout en haut de l'île. J'observais le village en contrebas et je me sentais vraiment seule.
Ah. Contre-coup, un petit peu
un de... Un petit contre-coup, oui. Et puis de pas pouvoir discuter avec les gens, c'était dommage parce que je venais aussi pour découvrir une population, des habitudes, des coutumes différentes des miennes. Avoir juste 2 interlocuteurs qui étaient pas forcément très bavards, c'était pas assez. Et heureusement, et encore une fois, des enfants de mon âge sont arrivés. Donc c'est pas vraiment des enfants. Des jeunes adultes, enfants, des résidents, sont arrivés sur l'île. Et on a pu, du coup, faire plus de choses, découvrir des festivals, aller boire dans les bars, ce que je n'osais pas faire toute seule.
Vous aimeriez faire d'autres projets de ce type-là, enfin d'autres résidences?
Oui.
Ouais, ça vous plairait de découvrir d'autres lieux?
Absolument. Ouais. Je candidate quand je vois passer des choses. Après, là en ce moment, encore une fois, je devais faire des résidences européennes sur les thèmes du vin, mais c'est en stand-by.
Oui.
J'espère que ça pourra reprendre. Je devais partir en Roumanie déjà l'année dernière, normalement en avril, mais là j'ai pas de nouvelles, donc je pense que c'est encore...
Oui, c'est encore remis à plus tard.
Mais oui, je trouve que chaque expérience comme ça nourrit énormément la démarche.
Ouais, c'est très différent du temps de l'atelier finalement.
Oui,
ça fait un contrepoint à la vie de l'atelier.
Bah, se retrouver propulsé comme ça dans un environnement inconnu, qui est familier pour d'autres, mais qui pour nous est complètement nouveau. C'est très exotique, ça peut être à l'autre bout du monde, comme dans une ville tout proche d'ici, il n'y a pas besoin de partir très très loin, mais toujours de s'immerger hors de sa zone de confort.
Alors justement, pour revenir à l'atelier, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu isolé par rapport au public quand vous créez, finalement? Parce que le temps de rencontre avec le public, c'est que les expositions? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres rapports au public intermédiaires?
Alors, je participe à des marchés de créateurs. Ensuite, on a d'autres ateliers, des moments de partage. Mais c'est vrai qu'à Reims, on n'a pas une vie culturelle très forte. Et ces temps de rencontres étaient déjà assez rares.
Assez rares. Et est-ce que ça, vous trouvez que ça a un intérêt ou pas pour vous?
Oui.
Et qu'est-ce que vous en retirez, en fait, des échanges avec le public?
Ben, ça peut arriver d'avoir des interprétations complètement différentes des nôtres, et je pense que des fois on se rend pas toujours compte de ce qu'on crée. Et une personne extérieure peut apporter une lumière sur un projet en disant « mais ça en fait, vous le faites parce que vous avez déjà fait ça ou ça ». Et je suis assez surprise des fois des révélations qu'on peut avoir, des choses qui sont évidentes, mais auxquelles on n'avait pas du tout pensé.
Et ça vous est arrivé de modifier des travaux à partir de réactions du public?
Non.
Non. Ça va pas jusque là. Ça va pas jusqu'à influencer votre production.
Non, sauf si après ce sont des commandes. Là, c'est encore particulier. Parce que moi, je peux rééditer une image et l'imprimer. Donc, si les modifications n'abîment pas la matrice, par exemple, ben, je peux m'y prêter sans problème. Oui, ça arrive.
Alors, justement, on parlait de commandes. Quel est le lien? Enfin, le commanditaire, vous avez une longue discussion avec lui? Ou alors, il vous laisse libre de faire ce que vous voulez? Puis, vous voyez au terme du processus?
Ça dépend.
Ça dépend du commanditaire,
ça dépend,
en fait.
Oui.
Alors maintenant, on va voir juste l'influence que peut avoir votre environnement sur la création. Est-ce que, bon, on va parler des choses franchement, aujourd'hui, là, c'est une situation vraiment très particulière avec la crise sanitaire. Est-ce que, en quelle mesure, on peut dire que ça a une influence sur votre création? Vous en avez un petit peu parlé, mais on peut essayer d'y réfléchir à long terme, parce qu'il y a déjà eu un confinement complet, et puis là, c'est plus tout à fait la même chose. Mais est-ce que ça a est-ce que ça change votre façon de regarder votre pratique artistique?
J'avais envie de travailler sur un projet de ruine. Avant le deuxième confinement. Finalement, je l'ai mis dans une petite boîte et je le reprendrai plus tard. Je me suis dit que là, j'étais trop influencée par la décadence et la ruine de notre civilisation. Mais j'avais envie de travailler sur les vestiges lapidaires, notamment des réserves, des musées, des chapelles, parce que j'en ai visité quelques-unes, dont celle du Palais du Thau, qui est magnifique.
Ah oui, tout à fait.
Et je trouve que le symbole était très très fort de tous ces restants de sculpture et puis de construction. Mais bon, c'est peut-être trop sombre, là, je suis pas prête à y retourner tout de suite.
Pour plus tard, Alors, par rapport à l'atelier, donc, vous travaillez à l'hyperespace, vous travaillez avec d'autres artistes qui travaillent dans d'autres catégories. Quel est votre lien avec eux? Est-ce qu'ils ont une influence sur votre travail ou est-ce que vous avez une influence sur leur travail? Vous pensez que le fait de travailler dans un atelier comme ça...
Oui, alors oui, c'est sûr. Déjà, on a tous un petit peu, enfin, en grande majorité, un intérêt pour ce qui se passe dans le ciel, dans les galaxies. Donc, ça va nourrir nos réflexions un petit peu, nos univers de science-fiction. Ensuite, on a des projets qui peuvent se croiser. Et puis, d'ailleurs, on travaille les uns avec les autres sur certains
domaines. Oui, il y a des collaborations plus étroites.
Tout à fait. Ouais. Bah, par exemple, là, à l'atelier, il y a Anne-Sophie Velli qui dirige Maison Vide, une association qui propose des résidences d'artistes et des festivals de musique sur Reims qui s'appelle le Festival à Miami. Je travaille avec elle sur certains aspects. De ce qui d'autre sinon.
Non mais le fait de bien se connaître, ça change quelque chose en fait par rapport à ces collaborations ou pas?
Alors à la base, on se connaît, le noyau central de l'association, on se connaît bien, mais le projet a changé, certains sont partis, ont déménagé, et d'autres sont arrivés. Donc on apprend aussi à découvrir les nouveaux résidents, et on crée des nouvelles connexions.
Est-ce qu'on perd une partie de soi-même quand on collabore avec quelqu'un? C'est une question un peu bizarre, hein, mais est-ce qu'on n'est pas obligé de céder sur une partie de sa production personnelle pour pouvoir arriver à collaborer avec un autre artiste?
C'est une bonne question parce que il peut y avoir ce risque-là. Moi, je le vois pas du tout comme ça. J'ai toujours l'impression qu'on va gagner quelque chose au final. On part pas, de toute façon, dans l'idée de faire une œuvre individuelle. J'arrive pas trop à formuler là.
Mais vous partez sur un projet commun qui naît de discussions entre vous?
Oui, un brainstorming géant avec des idées qui fusent, des pistes qui sont affinées.
Et vous répartissez les rôles comment?
Je pense qu'on sait les compétences de chacun et qu'on respecte aussi les sensibilités de tous. Donc naturellement, les choses vont se diriger.
C'est chacun qui se propose?
Alors il y a aussi le volontariat, tout simplement, qui veut mettre la main à la pâte. Et du coup, déjà, ça dirige... le rôle des uns et des autres.
Vous est arrivé d'avoir des collaborations, sans les nommer, hein, mais qui vous mettaient très mal à l'aise parce que vous n'arriviez pas à trouver votre place?
Ça m'est arrivé parce que la commande, à la base, n'est pas bien écrite. Là, du coup, on essaye de faire entrer trop de choses dans le cahier des charges, sans nommer le projet en question. Mettre une dizaine d'artistes sur la réalisation d'une œuvre pour montrer tous les savoir-faire, tous les univers, c'est le risque à la fin d'avoir une mosaïque complètement hétérogène et pas du tout réussie. On avait quand même réussi à s'en tirer, mais le travail était dommage, on aurait gagné à faire plus minimaliste.
Ouais. Et le lieu dans lequel vous êtes, alors je parle de lieu Reims, la région Champagne, le Grand Est, est-ce que vous pensez que ça a une influence aussi sur votre création? Le fait d'être dans cette région et pas une autre?
Je commence à le croire. Moi qui observe beaucoup la nature, je trouvais que les paysages champenois étaient un peu pauvres. Et en fait, d'avoir cette résidence aussi d'artiste à la campagne qui s'appelle Maison Vide, on l'a observée un petit peu plus, cette campagne, et elle a un charme fou. C'est pas facile à décrire, mais disons que ça inspire beaucoup de choses, que ce soit les vignobles ou les horizons comme ça, très nus. Je trouve, oui, que ça nous inspire.
Oui, c'est plus minimaliste, peut-être moins démonstratif que certains paysages.
Il y a quelque chose de modeste et en même temps de très riche.
Que vous découvrez maintenant, plutôt maintenant.
Et puis une lumière aussi, les ciels ont vraiment une lumière très particulière. On le dit souvent et c'est vrai.
Alors plus laiteuse, plus, plus bleue.
Champagne.
Plus champagne, avec des bulles.
Sans les bulles, mais oui, des lumières rosées, dorées. Je trouve que le soir, il y a des très très belles lumières.
Et alors, dernier aspect, c'est une autre forme d'environnement, on va dire l'environnement du temps. Est-ce que le fait de vieillir, de mûrir, on va choisir mûrir, c'est plus sympathique, ça change aussi votre rapport à la création? C'est-à-dire que vous entrez dans des étapes différentes de votre vie d'adulte.
Tout à fait.
Et est-ce que ça a changé les choses, là aussi?
Oui, complètement. Bah, par rapport à la pression d'un parcours, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément d'ailleurs dans un domaine artistique, on a des attentes, des ambitions, et on peut perdre de vue l'objectif principal qui est de faire. Je trouve qu'en vieillissant, j'essaye moins de me préoccuper de la renommer entre guillemets des choses. D'ailleurs, je communique pas assez sur ce que je fais. J'ai un petit peu de mal avec tout ça. Mais oui, j'essaye de rester fidèle à moi-même. Mmh. On a des commandes, hein, bien sûr, et puis on les respecte. C'est toujours une source aussi d'intérêt. Mais oui, essayer de toujours recentrer sa démarche, finalement, de ce qu'on cherche à communiquer, à partager. Mmh. On est toujours en recherche de ça et il faut garder.
Vous aimeriez déléguer cette partie de communication, justement, pour être soulagée, voyez, du côté promotion, en fait.
Oui, d'une certaine manière, je suis toujours assez impressionnée par les artistes sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux qui arrivent à créer ce qu'on appelle un storytelling, à raconter dans des stories les processus, l'envers du décor. Ça peut être très très enrichissant pour le public.
Oui.
Et très 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 dynamisant aussi.
Oui, mais c'est peut-être une perte de temps aussi pour soi-même dans le processus dans lequel on est. C'est
de
une dispersion,
façon,
voilà.
Je pense que l'artiste, c'est une sorte de bestiole avec plusieurs casquettes. Un communicant, une partie administrative, comptable. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on doit savoir manier, avec lesquelles on jongle. Et finalement, savoir communiquer sur son travail, si on n'arrive pas à le faire,
c'est un handicap.
C'est un handicap. Il faut savoir partager les choses et échanger.
Pour la dernière partie, on va parler à la fois du regard que vous avez un peu sur ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes artiste graveur ou graveuse, et puis aussi vous allez nous indiquer les artistes, les créations qui vous tiennent à cœur. Alors première partie, d'abord je voudrais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur l'ensemble de vos créations. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ou est-ce que ça vous importe peu ?
J'essaye, déjà pour guider les prochains projets, essayer d'avoir une trame.
Finalement, une cohérence ou pas ?
Une cohérence, on va dire, je suis un peu bordélique, donc ça va être compliqué à obtenir, mais en tout cas, avoir l'impression d'une progression. Et finalement, avec mes observations de soleil de minuit, de solstice, la nature aussi avec les équinoxes finalement, l'automne, j'ai l'impression que je suis dans une forme de cycle. Et j'essaye d'aller vers ça.
Ouais. Et quand vous regardez tout ce que vous avez produit, quel est le sentiment qui domine ? Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction, d'étonnement, peut-être de frustration ? Enfin, il peut y avoir de tout hein, dans ce sentiment-là.
Disons qu'il y a des œuvres que j'aime beaucoup moins, mais je les renie pas non plus maintenant parce que je comprends que ça fait partie de ma recherche. Donc elles sont pas parfaites. Elles sont peut-être un petit peu trop illustratives ou trop narratives ou maladroites aussi tout simplement dans leur forme, parce que je pense que le fond et la forme sont très importants les deux. Mais je les renie pas parce que ça fait partie de moi.
Oui, c'est que vous vous identifiez plus vraiment à ce type d'œuvre peut-être, ou ce type de démarche.
Ou que l'intention était là, mais
ça n'a pas produit ce que vous cherchiez.
Oui.
Si jamais vous rencontriez, imaginez un jeune artiste, et je crois que c'est le cas dans votre atelier, hein, des jeunes qui démarrent.
Oui, on a des stagiaires.
Voilà. Quel est le conseil que vous leur donnez en général, de façon sans être, vous savez, le mentor pesant, mais quel est le conseil qui vous semble essentiel pour démarrer ?
C'est d'avoir un réseau. C'est vraiment le tout premier que je donne, de pas rester tout seul. Moi, ma pratique, elle s'est enrichie par la rencontre des gens, notamment via cette association Maison Vide, où on accueillait d'autres artistes, donc on découvrait d'autres univers. Les associations auxquelles j'ai participé, les collectifs, les ateliers aussi, celui de Marie-Christine, tout ça m'a fait rencontrer tout un tas de gens, très différents, pas forcément graveurs d'ailleurs, des musiciens, des écrivains, des photographes. Tous ces gens-là m'ont enrichie et ont construit toutes ces choses, même Hyperespace ne se serait pas construit, cet atelier donc participatif, ne se serait pas fait sans ces rencontres.
Alors, vous nous avez préparé une petite présentation, je vous laisse choisir ce par quoi vous voulez commencer, soit une œuvre d'art, soit une artiste à nous présenter.
Ben, je voudrais commencer par une artiste qui s'appelle Lee Miller, qui est pour moi une figure très importante du XXe siècle et méconnue du public, qui a quand même eu quelques reportages Arte cet été, donc peut-être que les gens pourront retrouver ces petits courts-métrages de documentaires très intéressants. Et quand on parle d'elle, on va parler d'elle comme la muse de Man Ray, ce qui est très réducteur. C'est une jeune fille très ambitieuse qui est née au début du XXe siècle et qui a traversé les océans, on va dire, pour rencontrer son idole Man Ray à l'époque et devenir son assistante. Elle a été sa muse aussi, mais pas que. Elle a développé sa propre pratique de photographie. Ils ont découvert ensemble le procédé de solarisation. Et puis, ils ont une histoire d'amour aussi. Et quand ça s'est terminé, elle est partie voler de ses propres ailes. Et elle a eu une vie incroyable. Elle a épousé un homme d'affaires égyptien et photographié sous toutes les coutures le désert, le Caire. Et ensuite, elle est revenue à Paris, partager les réflexions des surréalistes. Elle a tourné dans certains films de Cocteau. Elle a été très rayonnante, très inspirante pour son époque, très libre aussi. Elle a couvert aussi la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait des photos très très fortes des camps de concentration, qui sont très dures à regarder, qui sont peut-être les seuls vrais témoignages de cette époque. Et chose très insolite, elle s'est prise en photo dans l'appartement d'Hitler, dans sa baignoire, où elle s'est nettoyée de la boue qu'elle avait accumulée dans les camps d'Auschwitz, avec le portrait d'Hitler qui l'observe. Donc c'est quand même un personnage incroyable. Pardon, je perds ma voix. Et qui est réduit au statut de muse, alors qu'elle est une artiste à part entière, un reporter aussi de grande envergure. Après, bon, forcément, sa vie s'est un petit peu calmée parce qu'elle a épousé un photographe anglais et s'est retirée dans la campagne anglaise. Et après, a raccroché, on va dire, les objectifs. Mais voilà, elle mérite vraiment plus de lumière.
Plus de lumière, et c'est ce que vous lui donnez maintenant, ce qui est très important. Et ce qui vous fascine chez elle, c'est ce côté touche-à-tout, ou alors c'est l'audace, ou peut-être les deux?
C'est l'audace, la créativité, mais aussi cette quête de quelque chose qui va peut-être aussi lui brûler un petit peu les ailes. Je pense qu'elle n'est pas ressortie indemne des camps d'Auschwitz. C'est peut-être aussi ce qui l'a motivée à se poser et à trouver un peu de sécurité auprès de son mari, mais les témoignages qu'on en a disent quand même qu'elle a regretté sa vie d'artiste et de reporter.
La suite, ouais.
Après, je pense que c'est compliqué pour une femme, surtout de cette époque, d'être artiste et de faire ce genre de choix. Ça me fait penser à une autre, pas une autre artiste, mais une Parisienne, voyage d'une Parisienne à Lhasa. Alexandra de Nel.
David Nel, ouais.
Voilà. Qui a raconté dans sa biographie son périple au Tibet, déguisée en mendiante.
Tout à fait. Il y avait des femmes qui ont osé des parcours assez originaux. Et c'est vrai, donc, on commence seulement à les redécouvrir maintenant et à savoir ce qu'elles ont fait. Et parfois, elles ont été cachées derrière les hommes. Ça, c'est sûr que c'est une démarche importante que d'en parler. Et peut-être une œuvre d'art dont vous vouliez nous
parler. Je voulais parler des Soleils de Simone Boissec, une sculptrice qui a été exposée au Musée des Beaux-Arts de Reims. D'ailleurs, par ce biais que je l'ai découverte, sinon jamais j'aurais découvert son travail. Son univers est très intéressant, elle fait de la sculpture non figurative, et elle cherche un langage visuel malgré tout ça. Elle a des références à la pierre, au végétal, aux villes aussi, aux civilisations très minérales, mais dans des univers très abstraits, très, très géométriques. Et elle a réalisé, dans les années 50, je crois, toute une série de soleils en bronze ou en terre cuite, qui sont en réalité des sculptures qui montrent uniquement le rayonnement, avec un noyau invisible. Montrer, inverser finalement le rapport de la perception, montrer le rayonnement et non pas l'étoile. C'est très très fort visuellement.
Oui, ça semble très original. Mais en tout cas, merci beaucoup Mojirone d'avoir à la fois répondu à toutes nos questions et puis surtout de nous avoir d'avoir terminé sur ces deux belles présentations d'artistes. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Et vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc, ainsi que la musique, et animé par Géraldine Jojo. À bientôt pour un nouvel épisode et prenez bien soin de vous.